Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, Tumulte, émission spéciale consacrée à Frédéric Fajardy, écrivain décédé le 1er mai dernier. Avec Guy, nous recevrons Didier Andreau de l'association Colère du Présent, organisatrice du Salon du Livre du 1er mai à Arras, et dont Fajardy était l'un des parrains, et aussi Jérôme Leroy, écrivain et auteur notamment d'un livre paru en 1994 et consacré à Fajardy. Mais d'ici là, une demi-heure de tumulte musical. C'est le contenu de ce tumulte numéro 969. Jean au micro, salut. Fantasio. C'était Fantasio. On écoute maintenant Pascal Comelade, extrait de son nouvel album Méthode de Rock'n'Roll. We'll be right back. Mamie Chan.
Je sais pas où tu l'es mis. J'ai perdu mon parapluie. Je sais pas où tu l'es mis.
Easy Rider fête sa 1000e sur Radio PFM 99.9.
Rendez-vous le samedi 31 mai 2008 de 19h à 23h.
Devenez programmateur d'un soir et proposez les titres de ces 20 dernières années que vous voulez réentendre.
Rendez-vous pour cela sur le site de radiopfm.com, rubrique Easy Rider, et laissez un message avec vos propositions.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Et dans 8 minutes maintenant, émission spéciale consacrée à Frédéric Fajardi, écrivain décédé le 1er mai dernier. Avec Guy, nous recevrons Didier Andreau de Colère du Présent et Jérôme Leroy, écrivain et auteur d'un livre consacré à Fajardi, paru en 1994. Fanu et Bill Laswell. We'll be right back. Et on termine cette séquence musicale avec un extrait de l'album de John Greaves consacré à Verlaine, Séguidille. Tumulte, émission spéciale consacrée à Frédéric Fajardi, écrivain décédé le 1er mai dernier. Avec Guy, nous recevons Didier Andreau de l'association Colère du Présent, association qui organise le salon du livre du 1er mai à Arras et dont Fajardi était l'un des parrains. Et nous recevons aussi Jérôme Leroy, écrivain et auteur notamment d'un livre paru en 1994 et consacré à Fajardi.
Donc Jean nous l'a annoncé, émission consacrée à Frédéric Fajardi, un auteur, on va le dire, important de ce que l'on peut appeler le polar, voire le néo-polar, on va y revenir. Frédéric Fajardi, ça a été dit aussi par Jean, a été le parrain du salon du livre, d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, on va y revenir. Donc avec à la fois Jérôme Leroy et Didier Andreau. Alors Jérôme Leroy, écrivain, chroniqueur, encore professeur, si j'ai bien compris, encore quelques mois, hein. Aussi conseiller littéraire de l'association Colère du Présent, qui organise le salon du livre, il faut le dire. Et donc, Jérôme Leroy, tu as consacré un essai à Fajardi, c'est un des premiers livres qui est sorti en 94. Alors, entre parenthèses, hein, c'est entre nous, s'il t'en reste, je suis preneur.
Très
difficile.
Je pense qu'il va être dur à trouver.
Très difficile à trouver, c'est publié aux éditions du Rocher, ouais. Hein, donc en 1994. Alors, on va commencer par aborder Fajardi, l'écrivain, hein, donc toute la partie littéraire. Ensuite, on viendra sur la partie Fajardi et le salon du livre d'Arras avec Didier. Mais pour commencer, donc Jérôme Leroy, comment s'est passée la rencontre avec Fajardi? Comment en être arrivé à écrire et à écrire sur Fajardi?
Ça s'est passé en deux temps, en fait. Je vais être anecdotique là parce que j'ai du mal à en parler autrement parce que c'est tellement présent. Je l'ai lu, j'ai dû lire mon premier Fajardi en 83-84 au moment de la réédition de Tueur de flic chez les Oswald avec les couvertures qui sont devenues mythiques, les couvertures de Claes noires et blanc comme ça. Et puis ça a tout de suite été le coup de foudre littéraire parce que c'est en fait j'avais 20 ans et puis la gauche était au pouvoir et je me demandais mais comment ça se fait que la gauche était au pouvoir, je me sens si mal et plein de gens de gauche se sentent aussi mal alors que normalement tout aurait dû bien aller. et les romans de Frédéric m'ont apporté tout de suite une réponse par la qualité de désespoir des personnages, et en même temps leur envie de lutter très fortement. Alors ce qui s'est fait, c'est que dès l'année qui a suivi, il y avait un magazine littéraire à Rouen, qui était ma ville d'origine, un peu snobinard, que je suis allé le voir. Olivier Frébourg, d'ailleurs, c'est assez amusant, et Rouennais aussi, et le dernier éditeur de Frédéric, travaillait dans ce magazine aussi. Je suis allé voir et j'ai proposé une interview de Fajardi. C'était en 85. Et à l'époque, un intellectuel digne de ce nom, encore, je maintiens, au milieu des années 80, faisait pas la différence entre Manchette et SAS quand on parlait de polar. Bah, dit oui, pourquoi pas, etc. Et donc, je pars avec un photographe, j'arrive à le rencontrer, en apprenant par hasard dans un petit que sais-je que c'était son vrai nom était, on peut dire maintenant, Ronald Moreau. C'était la vieille tradition Mao du pseudo. Et puis, je le rencontre. Et je me souviens très bien, c'était un petit appartement du côté de l'hôtel de ville. Il me reçoit avec une gentillesse incroyable. Alors que moi, j'étais assez tremblant quand même. J'avais un gros magnéto, mais voilà. Je me souviens du chien, je me souviens de etc. Et puis de l'interview et du fait qu'il me donne. J'avais été très très touché. Une nouvelle inédite que tout le monde connaît, qui a donné le titre d'un recueil qui s'appelle, enfin tous les Fajardiens connaissent, qui s'appelle Mort d'un lapin urbain. Et au moment, il me dit comme ça en partant, est-ce que vous, parce qu'on se voyait encore, je n'arrive pas à me souvenir du moment où on est passé au tutoiement. Est-ce que vous avez bien enregistré? Est-ce que c'est bien passé? j'appuie sur le magnéto et en bon blaireau, évidemment, il n'y avait absolument rien d'enregistré. C'est pas mis du tout en colère que n'importe quel starlet du polar ferait maintenant. Et il m'a même donné une nouvelle pour le, mort d'un lapin urbain, je viens de le dire, pour cette revue. Et je reviens avec cette interview et cette nouvelle est refusée par le directeur du magazine et moi, rouge de honte. Il a fallu que j'attende, je raconterai après, mais il a fallu que j'attende pratiquement 8 ans avant de le revoir parce que j'avais honte à l'idée de voilà. Et puis je peux continuer. Ouais, et donc en fait, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai publié mon premier roman en 90, dès que l'occasion s'est présentée, je me suis dit j'ai une forme de dette à la fois littéraire, humaine en 93, Patrick Besson a lancé une collection sur l'idée était que de jeunes écrivains écrivent sur des écrivains vivants. C'est le principe de la collection. En le choisissant, et donc moi j'ai choisi Frédéric Fajardi tout de suite, qui était encore au milieu des années 90 déjà beaucoup plus connu, mais toujours considéré comme un auteur de polar au sens strict. Et je peux dire que je pense être un des premiers à avoir sorti une monographie sur un auteur du noir, une bio monographie sur un auteur du noir de cette période là bon, il y avait eu quelques livres de Boileau Narcejac sur Simenon, mais à part ça, pas grand chose. Et c'est comme ça qu'on est devenus potes, en fait. Il se souvenait même pas de cette fameuse histoire de 85
du magnéto,
de la nouvelle qui était pas passée. Et donc c'est là que je l'ai rencontré, et puis c'est en faisant ce livre sur lui qu'on est devenu potes, quoi. Voilà.
Alors on va revenir bien entendu sur ce livre, sur cet essai, et puis sur la place qu'occupait Fajardi, enfin qu'occupe Fajardi dans le roman noir français. Mais nous on l'a rencontré à un PFM, on l'a enregistré. Il y avait un magnéto qui fonctionnait, il y avait une bande et tout. Donc on va écouter un petit peu. C'était en 2003, lors de sa première venue au Salon du Livre d'Arras. C'était le deuxième Salon du Livre. Alors, Frédéric Fajardi, vous êtes un des auteurs vedettes de ce deuxième Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale. Vedette, ça ne devrait pas trop vous plaire, mais vous n'y pouvez rien. Par contre, littérature d'expression populaire et de critique sociale, ça doit vous plaire.
Pour ce qui est de vedette, pas faire les chochottes. J'ai assez travaillé pour pouvoir considérer maintenant qu'effectivement, j'ai acquis une certaine notoriété. Quant à ce type de salon, oui, c'est sympathique parce que c'est d'abord rarissime en France. Et puis, moi j'ai des attaches dans le Nord, ma mère était du Pas-de-Calais, donc il y a toujours un plus sentimental. Et c'est vrai que ma famille, du côté nordique en tout cas, était très liée au prolétariat, au milieu des mineurs, et même à la misère du début de siècle. Donc tout convergeait pour me donner envie de devenir, nonobstant la personnalité très sympathique qui organise ce salon. Didier.
Alors, il y a les racines familiales, mais il y a aussi justement le thème du salon, l'expression populaire, le livre, la littérature d'expression populaire et de critique sociale. Vous sentez un auteur de littérature d'expression populaire et de critique sociale ?
Critique sociale, certainement, oui, parce que je l'ai toujours fait, puis je continue à le faire. Expression populaire, je ne sais pas, parce que j'ai plutôt un style... mes ennemis disent maniéré, je dirais assez classique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, c'est. Mais je crois que l'idée que ça contient, c'est que finalement la bonne littérature qui s'adresse spécialement aux gens qui sont pas dans les milieux intello du genre, vous savez, Marguerite Duras, etc. Sont pas insensibles du tout au fait qu'on essaye de bien écrire les livres. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de penser que populaire égale roman de gare. Et si c'est en cela que, enfin, si c'est vers ça que converge la démarche, je suis absolument d'accord.
Ouais, donc pour vous, l'expression populaire, la littérature d'expression populaire, c'est pas un style, c'est un genre. Et par exemple, vos premiers romans, qui sont des romans noirs, ils s'inscrivent dans l'expression, quelque part, dans une expression populaire.
Le premier, il s'appelait Tueur de flics déjà, donc c'était pas neutre, c'était sous Giscard d'Estaing, faut le rappeler quand même. Donc les libraires avaient très peur de le mettre en vitrine, faut se rappeler ce que c'était que cette période. Je l'avais pas fait par hasard, et très sincèrement je pensais pas que ça marcherait. J'aurais rien changé d'ailleurs si j'avais su que ça devait marcher aussi fort, mais je pensais pas que ça marcherait. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, plus qu'aujourd'hui, le roman noir était un genre un peu méprisé et uniquement livré aux auteurs, je vais être gentil, je vais dire réactionnaires, mais ça allait bien au-delà en fait. Donc c'était une manière de réinvestir. D'autres l'avaient commencé avant moi, il y avait Jean-Patrick Manchette et il y avait Jean Vautrin. Et donc, comme les trois mousquetaires, j'étais le troisième de cette période magnifique qu'on appelait les années 70.
Alors, Frédéric Fajardi, hein, qui parle de ces années 70, qui parle donc du néo-polar, on va y revenir. Jérôme Leroy, on va resituer d'abord. Hein, donc, Frédéric Fajardi est né en 1947, donc il avait 20 ans en 1968. Hein, je pense que c'est la première période qui a marqué sa vie, avec un engagement très fort en 68.
Oui, mais même qui était un peu antérieur, puisqu'il était dans les comités Vietnam de base, qui ont commencé, si sauf erreur de ma part, début 67 en France. Donc en fait, il était dans les premiers maoïstes français. Puis les CVB, c'était quand même leur slogan était patron, nous vous pendrons par les couilles, ce qui était quand même déjà qui indique tout à fait une certaine virulence dans l'engagement. Et puis effectivement, il a fait 68 dans les troupes de choc de la gauche prolétarienne. D'ailleurs, il a un discours plus ambigu après là-dessus sur le fait que de la gauche prolétarienne comme ailleurs, il y avait l'état-major qui était rue d'Ulm et les mecs qui allaient se faire casser la gueule. Donc lui, il faisait partie, puisqu'en plus, il faut aussi dire qu'à cette époque-là, il n'avait pratiquement aucun diplôme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il était autodidacte, revers de fortune paternelle. Enfin, il l'a souvent raconté dans ses romans, je dévoile rien de, ou indirectement. Et donc, il a vraiment été dans les ordres, beaucoup de petits boulots, quoi. Son père était un moment ferrailleur, puis un moment libraire. Et d'ailleurs, enfin, libraire d'anciens bouquinistes. Et c'est là qu'il a rencontré pas mal d'écrivains, d'ailleurs, avec des gens comme Max-Paul Fouché, par exemple, qui venaient revendre leurs services de presse. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il a fait B68 comme un soldat de basque, comme un grenadier voltigeur.
Il n'était pas étudiant en 68.
Il a été étudiant après.
Il a passé le bac à 25 ans.
C'est ça. Et Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est, en fait, dans les années, il a fait son service militaire juste après, en Allemagne. Et puis dans la DCA, il aimait bien le signaler parce qu'il disait toujours que c'était comme ça, c'était une arme, on pouvait rester efficace très vieux pour descendre les avions de la bourgeoisie. Il a longtemps, c'était quelque chose qu'il répétait extrêmement souvent. Et puis et c'est après qu'il a commencé à faire des études, d'ailleurs assez brillantes. Puis je veux dire, il a
accumulé les diplômes,
plusieurs licences, un DEA à l'école. L'école des hautes études, enfin, il a eu Pierre Vidal-Naquet comme prof. Enfin, c'était quelqu'un qui était. J'avais rencontré Jean-Marie Domnac qui se souvenait de lui comme d'un excellent élève. Voilà, enfin c'était un étudiant vraiment. Enfin, il avait quelque chose de très. Comme dans tout ce qu'il faisait, j'ai l'impression que ces années-là, il les a passées. Il fallait montrer puisque la société bourgeoise ne reconnaissait que ça. La révolution, il est allé fort.
Jean, un mot sur Fajardi et...
Non, mais c'est simplement une petite précision historique pour Jérôme. Ouais. La gauche prolétarienne n'apparaît qu'après mai 68.
Oui, pardon. Oui, tout à fait. Oui, pas
donc,
pendant.
Donc Fajardi est en 68 et dans les rangs des marxistes-léninistes, parti marxiste-léniniste, qui est très stalinien et dans l'orthodoxie maoïste.
Voilà. C'est ça, voilà, oui.
Et c'est une scission de ce mouvement-là qui donnera ensuite la gauche prolétarienne avec son côté beaucoup moins stalinien et plus spontanéiste et aussi un petit peu populiste. Ce qui peut avoir une certaine importance dans le type aussi de héros que peut construire Fajardi dans ses ouvrages. Mm-hmm. Hein, ça peut avoir un certain sens. Les ML en 68 étant une force importante, mais qui a été très rapidement marginalisée dans les événements. C'est qu'une fraction, en fait, qui a participé au mouvement des barricades. Les ML étant très opposés à cette perspective-là.
Alors, on avance toujours dans la vie de Fajardi. On arrive à une année importante, c'est 1974, c'est-à-dire il écrit son premier roman. Il sera pas publié en 74, hein, quelques années plus tard, mais son premier roman, Tueur de flics, et puis il rencontre celle qui va devenir sa femme, Francine. Et 74, c'est aussi l'année où il lance
Les éditions fauteuil, fauteuil ouais, et puis c'est... la collection sanguine parce que
ouais, bon, alors, c'est, il... assez, c'est, assez, ouais. C'est assez amusant
parce qu'il commence donc un peu comme éditeur. Ouais.
Enfin, il commence comme en fait il a se servant comme de base la librairie de son père. À partir de là, il commence à lancer une collection. Donc dans cette collection, il publie des polars assez dingues, notamment le premier polar homosexuel, qui était un type qui s'appelait Jean-Nicolas Baudrin, et le titre était Autant en emporte le vent. Il va éditer Morgiev, il va éditer des gens comme ça, et puis donc finir lui aussi par éditer Tueur de flics, de manière assez assez étonnante, parce que c'est pas étonnant qu'il ait dédicacé presque tous ses livres à Francine, parce que c'est elle qui l'a soutenu vraiment. Moi, il me l'a répété plusieurs fois. Elle a, en 74, quand il y a eu tous ces refus, elle a récupéré le manuscrit dans la poubelle, mais c'est pas une légende. Elle aussi le dit. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a été, il doutait franchement, quoi. C'est-à-dire que donc il a fini par s'auto-éditer, entre guillemets, parce qu'il éditait d'autres gens, ouais, et tout. Mais, en revanche, ce qu'il faut signaler tout de suite, enfin, tu l'as évoqué, Guy, un petit peu, c'est que la reconnaissance, au moins, pas du public tout de suite, mais de la presse, et d'une presse alors qui d'habitude avait encore des habitudes en 79. Je veux dire, le polar, c'était le truc dont on parlait une fois par hasard. Hein. Tout d'un coup, des gens comme Jean-François Fogel du Nouvel Obs, Jean-Paul Kaufmann évidemment, tout de suite se mettent à déceler chez lui quelque chose qui va au-delà du genre. Je sais pas s'il aurait été très content qu'on dise ça, parce qu'il est très content de faire du genre, mais... Enfin, tout simplement un écrivain. Enfin, c'est, voilà, point. Un écrivain qui se trouvait, et ça, il a beaucoup, je veux dire, ça, je m'avance un petit peu pour, peut-être sur la suite de l'émission, mais ça a beaucoup servi plein d'écrivains, ça. C'est-à-dire que ce fait de pouvoir être, c'est un des premiers qui est reconnu, enfin, bien sûr qu'il y a eu Manchette avant, à être reconnu, par une critique à être reconnu comme écrivain, point.
Alors justement, bon, une petite parenthèse, parce qu'on peut citer aussi pour les auditeurs, hein, des bouquins. Bon, on a parlé de 68, on va pas y revenir. Il faut citer de Fajardi à lire, Jeune femme rouge toujours plus belle, ouais, hein, qui est un roman un peu autobiographique qui revient sur mai 68, hein, qu'on trouve dans les collections de Poche. Là, ouais. Moi, je l'ai dans La Petite Vermillon.
C'est La Petite Vermillon, mais je pense qu'il est tout. Enfin, moi, je pense que c'est très bien que tu cites ce livre, parce que je conseillerais à toute personne qui aurait la chance de ne pas encore avoir lu les livres de Frédéric, de commencer par celui-là, justement. Mmh. Qui me semble un petit peu à la fois puis en plus, il est assez central. Il l'avait écrit pour les 20 ans de 68. Ouais. Alors, si vous faites le calcul, 68, 88, 2008, il est central dans son œuvre, dans sa vie. C'est effectivement un livre qui est certainement le plus autobiographique sur, même s'il y a une forte intrigue policière.
C'est un roman.
C'est quand même un roman, hein. Mais c'est là où il a le, enfin, moi, je compare un peu ça je l'avais mis dans mon bouquin à l'époque, puis je le ressors dans les articles. Quand on a une formule, on est toujours content. Mais la Chartreuse de Parme du gauchisme, c'est-à-dire que c'est comme Fabrice Eldongo à Waterloo. Il comprend pas tout ce qui se passe, et c'est effectivement, il le dit lui-même, enfin, c'est le personnage ne comprend pas tout ce qui se passe, quoi. Il est sur les barricades, mais il ne comprend pas tout ce qui se passe. C'est une espèce de vue intimiste. Contrairement au dernier roman de Frédéric, qui était des grandes fresques, en fait, le dernier roman historique qu'on a pu lire, ça, c'est un roman historique, mais intimiste. Ouais. C'est vu par un petit gras, quoi.
C'est aussi l'éducation sentimentale.
L'éducation sentimentale, exactement. C'est l'autre, donc, c'est l'autre
facette, de Fajardi. Alors donc, on en était à Fajardi qui arrive, hein, mais vraiment avec, dès son premier roman, qui met les pieds dans le plat du polar, de ce qu'on a appelé le néopolar. Alors, quelle place, effectivement, Fajardi occupe, il publie 4 ans, en fin de compte, son premier bouquin, c'est 79, Manchette, je pense que c'est 74, donc c'est 4,
un peu plus tôt, sur Manchette, même.
Bon, Manchette, 71, ouais, Manchette. Ouais, 71.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va apparaître dans une mouvance qu'on a appelée, à tort ou à raison, le néopolar. Donc, qui est fait, effectivement, est en général fait par d'anciens gauchistes, de tendances extrêmement différentes, qui sont des types, bon, qui ont fait 68, enfin, moi, je dis toujours que c'est une manière de continuer la révolution par d'autres moyens qu'ils ont trouvés en écrivant du noir. Enfin, ils investissent de manière assez gramschiste la littérature noire, justement, qui était jusque-là, comme le dit Frédéric très bien dans l'entretien que vous avez passé, c'était un petit peu des histoires de truands, c'était limite Pujadot, limite fascistoïde, enfin, en tout cas, vichysois, un peu, hein. Des mecs comme Ange Bastiani, c'était des anciens de la Carlingue, enfin, c'était des choses comme ça. Donc, eux réinvestissent un genre assez conservateur, assez macho, ils le réinvestissent avec les idées de 68, avec les idées de gauche, avec une idée de la critique sociale. C'est pour ça que on peut faire un parallèle avec justement le noir historique paru aux États-Unis avec Hammett et compagnie. Et donc Frédéric, lui, ce qu'il apporte d'original à mon avis, c'est un style. C'est-à-dire que il a tout de suite il y avait des critiques qui l'aimaient pas. Il y avait un type qui l'aimait pas et que le milieu du polar aime bien, qui est mort et maintenant c'est une icône, on peut pas y toucher. C'est un mec qui s'appelait Michel Lebrun et qui avait dit mais pour moi c'est des romans Bermuda, parce que effectivement les romans de Frédéric, les premiers, font 120-130 000 signes, sont plus ce qu'on appellerait des novellas là aujourd'hui, et c'était critiqué parce que je sais pas, ce monsieur devait estimer que il y avait pas le poids suffisant, quoi, il y avait pas le rapport qualité-prix. Or justement, ce qui faisait de la qualité des romans de Frédéric, c'était leur rapidité, leur concision. Enfin, c'était un sprinter en début de carrière. C'est que c'était des livres qui étaient, et pas parce que s'il fallait les lire dans une soirée, qui étaient à consommer comme les fleuves noirs dans les trucs de gare. Non, c'était de jolis petits des petits bijoux. C'était très ciselé. Et faut voir l'efficacité narrative. Évidemment, moi, quand je l'ai relu. Nous, les athées, la seule chose qu'on puisse faire quand on aime un écrivain et qu'on l'a aimé comme homme et tout, la seule prière qu'on puisse faire, c'est de continuer à le lire et de le relire, quoi. C'est la prière de l'athée. Et moi, j'ai relu là, et j'ai relu ceux du début, Tueur de flic, La nuit déchabotée, Sniper, et je suis, mais encore une fois étonné par l'efficacité, l'économie de moyens, mais parce qu'il refuse de tirer la ligne, parce qu'il est capable en deux ou trois lignes de te donner une atmosphère, un portrait, de te faire comprendre toute la complexité d'un personnage. Et puis voilà, je veux dire ça. Et ça, il n'y a pas grand monde qui savait le faire à l'époque.
Alors, tu disais, Jérôme, effectivement, bon, les premiers romans de Fajardi, très bon accueil dans la critique, une critique très large, mais effectivement, le milieu spécialisé, c'est un peu plus dur. Bon, t'as cité Michel Lebrun, mais on peut citer quand même Manchette, hein, qui est aussi un chroniqueur émérite, hein, qui disait, donc je cite, hein, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire des littératures policières. Je pensais d'ailleurs que c'est toi qui aurais signé l'article.
Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que c'est le moment où Mesplède m'avait contacté pour faire pour participer au dictionnaire, donc dans la première édition, la note sur Fajardi est déjà faite. Je me demande si c'est pas lui qui le, je sais pas.
Non, c'est Jean-Claude Alizé. Je pense que c'est, voilà, c'est lui qui s'occupe de la
publication, là,
les années
de la fiction.
Les années de la fiction, voilà, ouais, c'est ça. Ancrage. Manchette, à propos donc de Fajardi et de la collection Sanguine, hein, ce qui manque à ces messieurs, je cite, là, c'est la capacité professionnelle. En tant qu'écrivain, ils n'ont encore qu'une maîtrise très limitée de l'outil. Patientons.
Je suis en train de lire le journal de Manchette, qui est un très grand écrivain. Alors j'espère que Guérif ou son fils m'entend pas, mais qui humainement apparemment est quand même pas le type le plus sympathique de la terre. Il y a une grande capacité au mépris chez Manchette. D'ailleurs, y compris contre lui-même, parce qu'il aimait pas le polar, Manchette. Faut bien comprendre un truc, c'est que Manchette n'aime pas le polar. Quand on lit les chroniques de Manchette, il explique que c'est un genre qui est mort. Il me fait un peu penser à ces cinéphiles qui estiment que il y a plus rien. Comment il s'appelait ce type qui signait dans Libé avant, que le cinéma n'existe plus depuis que c'est du cinéma, depuis que c'est plus du cinéma muet, hein, que c'est devenu de la télé. Skorecki, voilà, je suis en train de chercher son nom. Bah, c'était un peu. C'est un compliment aussi, hein. Ça peut. Mais il faut savoir que il a écrit toute sa vie sur un genre qu'il n'aimait pas. Il a écrit parmi les meilleurs polars de qu'on puisse lire en langue française, à mon avis, Manchette. Hein, c'est un très grand écrivain tout court. Ceci étant dit, il faut savoir qu'il n'aimait pas le polar. C'est clair. Et ça, ça apparaît de manière évidente dans son journal et dans sa capacité au mépris. Et justement, ce qu'il n'a pas aimé là, mais ça ne visait pas directement Frédéric, même s'il a eu des critiques un peu sévères, ça ne visait pas spécifiquement Frédéric, ça visait le fait qu'effectivement, ce qui s'est passé à l'époque, comme tout, ça s'est mis à marcher auprès du public. Tout d'un coup, hein, notamment d'un public jeune. Ces polars, on lisait Jaouen, on lisait, il n'y avait pas que Vautrin, mais on lisait, je me souviens de gens qui étaient, mais bon, donc une fois comme tous les trucs, c'est la loi du marché, ça marche. On voit à peu près comment c'est fait, et je veux dire, ça faut reconnaître que quand on regarde la collection Engrenage, par exemple, etc., deux titres sur trois sont illisibles maintenant. Mmh. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est avec des méchants notables, alors que bon, bah, chaque fois, il y avait un bon roman qui parlait de ça. Par exemple, je pense à La Marée Rouge de Jaouen, sur le notable, comme pourri, le notable. Mais alors après, t'as des dizaines de mecs qui ont fait ça. En moins bien. Bah, Fajardi, c'est pareil. T'as des dizaines de mecs qui ont fait ça en moins bien. Alors, ces messieurs de Sandine, ouais, si tu veux,
oui, ça vise
l'idée. On va vexer personne, parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Enfin, quand je pense que Fajardi est mort, et tu veux, sont encore vivants, mais il n'y a pas de justice. Si tu veux, ces mecs-là, effectivement, on se sont dit, oh, bah, c'est facile finalement de faire du néopolar. Il suffit de prendre trois mecs désespérés, qui ont décidé de tout faire péter. Tu sais, c'est l'archétype de la nuit des chabotés, qui est aussi, alors, le deuxième après Jeune Femme Rouge, toujours plus belle. Je dirais, bah, maintenant, si vous voulez attaquer un polar fajardien, qui est à mon avis le plus libertaire, le plus romantique, enfin, qui résume toutes ses qualités, de cette période-là, en tout cas, c'est La Nuit des Chabotés. Donc, si tu veux, ils se sont dit, ouais, c'est très facile à faire. Et effectivement, Manchette, qui ne ratait personne, a bien vu le truc venir et a vu que le genre s'appauvrissait. Et effectivement, je veux dire, on peut pas s'empêcher de penser que quand on voit que tout le monde fait du polar aujourd'hui, que toutes les maisons d'édition font du polar, ont des collections de polar avec des trucs qui sont ni fait ni à faire. Je suis pas convaincu. On aime bien Jean-Bernard Pouille ici, mais j'en ai discuté avec lui. Je suis pas convaincu que le Poulpe, par exemple, est à tous les numéros du Poulpe, est rendu service à la cause du polar et à la cause d'ailleurs éventuellement politique que voulait mettre en avant le Poulpe. J'en suis pas sûr. Hein, SAS se vend toujours mieux.
Jean, un peu de musique.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Tumulte spécial consacré à Frédéric Fajardi, invité Jérôme Leroy et Didier Andreau.
Alors, on en est toujours à Fajardi. Alors, Frédéric Fajardi, hein, ça a été dit, c'est un pseudonyme, mais c'est Frédéric, tous ses bouquins, Frédéric H. Fajardi. Alors le H, Jérôme Leroy,
il avait toujours dit, enfin ça dépendait parce que il avait des humeurs là-dessus. C'est-à-dire que de temps en temps il disait c'était parce que c'était pour faire américain, puis une forme de comme ça. Et puis après quand il a écrit des romans plus littéraires, c'est pas ce que je veux dire, mais des romans qui n'étaient plus au sens strict des polars. Ça a vraiment commencé avec on peut dire Des Lendemains Enchanteurs, qui est d'ailleurs qui se passe qui se passe chez nous. Dans un bled du Pas-de-Calais, imaginaire, où un ancien de la guerre d'Espagne lutte contre un petit marquis stalinien. On a déjà tout les thèmes fajardiens. Juste après, il y a deux romans qui sortent chez Payot, à l'époque. C'est Une charrette pleine d'étoiles, sur la guerre d'Espagne. Très très beau livre. qui vient d'être réédité en Mille et une nuits. Et,
avec
puis,
une postface.
Ouais, non, mais moi, c'était pas pour ça que je le disais.
Mais nous, on peut le dire.
Mais
hein.
Ouais, bah, c'est sorti. Et, Un homme en harmonie, qui, à mon avis, un de ses très, très grands romans. Un roman où on voit que Fajardi, par exemple, contrairement aux trois tiers des auteurs de romans noirs, n'a jamais été manichéen. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, encore une fois, les vilains fafounés d'un côté, contre les gentils gauchistes de l'autre, ou les, enfin, le camp était pas, je rappelle quand même, et c'est pas une honte, il en était content que, il s'entendait bien qu'il y a des jets, hein. Qui étaient quand même de l'autre bord, complètement. Ils avaient une espèce de reconnaissance mutuelle. Peut-être de tricard, tous les deux, chacun à leur manière, d'ailleurs. Mais ça, on va peut-être y venir. Mais en gros, ces romans-là qui apparaissent vraiment comme montraient à quel point, là aussi, il était quelqu'un qui montrait aux gens du polar, avec ces romans-là. Donc, Dès Lendemain Enchanteur, qui paraît chez, c'était un des derniers titres de la collection Néo, la nouvelle édition Oswald. Et puis ces deux romans, parce que c'est un tournant important dans sa carrière d'écrivain. C'est là que je l'ai rencontré en plus. C'est à ce moment-là, moi, c'est début des 90, où il a ce roman sur la guerre d'Espagne et ce roman sur la résistance, Un homme en harmonie. Bon bah là, il montrait au milieu du polar qu'a eu tendance à le marginaliser. Hein, c'est pas un monde merveilleux. Hein. Quand on traîne dans les festivals du polar, faut quand même savoir que. Il y a des meurtres qui n'existent pas que dans les livres. Hein. Il y a des façons d'assassiner les gens par les paroles, la rumeur, qui vaut bien les atrocités de certains livres de Frédéric avec une spécialité. Il s'était fait une spécialité dans ses premiers polars, je le rappelle, mais ça devenait presque un exercice de style d'imaginer les morts les plus baroques et les voilà.
Jérôme, le point de départ, c'était le H.
Oui, bah oui, je me suis entraîné. Bah le H, il avait oui, non, parce que quand je pourrais parler de lui des heures,
H. Fajardi, ouais. Il l'a toujours fait apparaître même sur les
non, pas forcément parce que je crois même que je dois avoir des éditions où des fois il y a le H, des fois il y a pas le H sur les polars du début toujours, mais par contre, je suis sûr que sur les éditions originales entre guillemets des livres dont je te parlais chez Payot, c'est Frédéric Fajardi.
D'accord. Voilà. Alors donc
ça a peut-être correspondu chez lui, j'en sais rien, ouais. Mais on en a parlé, mais peut-être ça a correspondu à un moment de faire disparaître le H, de faire disparaître justement le côté strictement auteur de polar, parce que c'est un truc d'auteur de polar de mettre.
Pour conclure sur le polar, à t'écouter, on sent quand même que Fajardi, il était un peu marginalisé finalement dans ce milieu-là. Ouais. Et la preuve, je pense, la plus importante de cela, c'est qu'il, lui, contrairement à tous les autres de cette époque, de Manchette à Denax, il était entre les deux, en fin de compte, il a fait bien entre ces deux époques. Ouais. Tous étaient publiés à la série noire. Ouais, Fajardi, non.
Oui, tous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la série noire à l'époque. Alors pourquoi moi, je vais prendre un truc très simple. Je pense que il entrait pas dans le moule du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, en plus, il était assez imprévisible. J'ai vu chez lui une lettre de Bernard Pivot lui demandant pourquoi il n'était pas venu à apostrophe. Parce qu'il voulait pas. Donc déjà, c'est un truc. Je l'ai vu ça. Hein, il a refusé de passer à apostrophe. À une époque où ça voulait dire quelque chose. Donc il était incontrôlable. Et puis il était peut-être pour la série noire de cette époque-là, il était peut-être trop bon. Hein, parce que si on lit les numéros de cette époque-là, il y a eu du mieux avant lui, il y a eu du mieux après et maintenant. À cette époque-là, faut reconnaître que c'est pas forcément. C'est pas la meilleure période de la série noire. Hein. Certes, il y a Denynx qui apparaît chez les Français, mais il y a encore quelques signacs. Mais par exemple, je pense à des gens, moi, comme d'autres gens qu'on a un peu oubliés dans le polar, mais des gens comme Jaouen, justement, dont j'ai parlé, ils n'ont jamais été édités non plus en série noire. Parce que ces types étaient un peu incontrôlables.
Alors, polar, donc c'est vraiment une partie importante de la production littéraire de Fajardi, mais donc bon, ça a déjà été évoqué. Il s'est attaqué à un autre genre. On va appeler ça le roman historique populaire, hein, avec des romans aussi qui ont connu beaucoup de succès. Et cette fois, on pouvait pas dire qu'ils étaient courts, ceux-là. Hein, ça pouvait pas être des romans comme le disait Michel Lebrun.
Des romans Bermuda, hein, ouais.
Quand on sa série là, sur les foulards rouges, voilà, hein, je recherchais le titre. Bon, ce sont des pavés et avec une documentation, enfin un apport historique réel.
Bah, si tu veux, c'est oui et non, parce que le problème, c'est que Frédéric a toujours fait intervenir, et Denain, que se lui reconnaît cette dette-là, hein, c'est un des premiers à faire intervenir, si tu veux, l'histoire. Bon, moi, par exemple, le livre que j'avais fait sur lui, c'était un abécédaire. Tu sais, etc. Et le plus gros, la lettre la plus grosse, c'était H comme histoire. Et à l'époque où il n'avait pas encore écrit cette série. Parce que si tu réfléchis bien, notamment les romans de Frédéric sont très souvent, même quand c'est des romans noirs, des romans où l'histoire intervient. Mm-hmm. Hein, même, je veux dire, même dans les, par exemple, je prends un truc hallucinant, c'est le Souffle court. Qui est un texte qui est de 82 où il raconte des meurtres commis par des oustachis, donc pour nos auditeurs c'était les nazis croates, les anciens nazis croates, les fils d'anciens nazis croates qui se vengeaient des Serbes en tuant des Serbes en plein Paris. Puis je dis, mais t'as été chercher ça où? Parce que c'est passionnant. En plus, l'histoire est complètement passionnante. Bon, il me dit, mais tu sais, la Yougoslavie sera pas éternelle, c'est un jour ou l'autre ça pètera. Et le roman est totalement prophétique. Donc il détecte les bons retardements de l'histoire. C'est vrai que sur la fin, les derniers romans sont des romans qui se veulent populaires. Il a eu le prix Paul Féval d'ailleurs, c'est pas un hasard. Oui. Bon, mais il faut savoir
c'est
que
du roman populaire.
Ça a toujours été un romancier pour qui, ça a toujours été un écrivain pour qui l'histoire a été extrêmement importante avec des périodes clés. Et ça se voit dès le début d'ailleurs de sa carrière. On n'en a pas encore parlé, mais je pense aussi d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi la série noire, il n'y était pas non plus. C'est aussi un très grand nouvelliste. Mm-hmm. Oui. On n'en a pas parlé, mais c'est un as de l'histoire courte. Je pense que moi, si je disais à un jeune, tu veux savoir à quoi ressemblait la France des années 80? Parce qu'à la fois, on a l'impression que c'est hier les années 80, mais ça fait 20 ans, l'air de rien. Moi, ça me frappe quand je vois des films des années 80, je me dis, mais qu'est-ce que le monde a changé? Bon. Eh ben, je dis, c'était, et Jean-François Fogel disait la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, il suffirait, passons le bouquin de les bouquins des nouvelles de notre ami Pierre Goya aussi a travaillé sur les nouvelles de Frédéric. Ces nouvelles, sont à la fois un témoignage formidable de l'époque, mais très 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 souvent font intervenir l'histoire dans toutes les nouvelles.
Alors on va aborder un dernier aspect du Fajardi, enfin de son apport à l'écriture. Donc il a animé aussi beaucoup d'ateliers d'écriture. Il a produit des témoignages et on écoute un document sonore. Radio Libertaire Paris et Radio PFM Arras vous proposent une rencontre avec Frédéric Fajardi pour son livre Métal Europe, parole ouvrière, paru aux éditions Mille et Une Nuits. Frédéric Fajardi est accompagné de Farid Ramou, ex-agent de maîtrise de l'usine Métal Europe Nord à Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais, qui a fermé ses portes en janvier 2003. Farid est sans doute plus connu comme délégué syndical CGT et animateur de la lutte des salariés de Métal Europe contre la fermeture de leur entreprise. Frédéric Fajardi est aussi accompagné de Didier Andreau, président de l'association arageoise Colère du Présent, association qui en quelque sorte a joué le rôle d'intermédiaire entre les salariés de Métal Europe et l'écrivain Frédéric Fajardi. Au micro, Guy et à la technique, Bernard. Merci pour le calage. T'aurais pu caler quand même le document un peu après. Mais c'est ça, quand on arrive très tard pour son émission, on n'a pas le temps de la préparer, donc on peut pas bien caler les morceaux. On aurait préféré entendre.
Là, tu parles pour toi,
Guy. On aurait préféré entendre Fajardi. En tout cas, bon, on lance la dernière partie de cette émission consacrée à Frédéric Fajardi. Peut-être qu'on pourra l'entendre un petit peu quand même après, Jean, là, sur cette question. Donc, on en arrive à sa collaboration avec Colère du Présent, donc son arrivée à Arras au salon du livre, au deuxième salon du livre, et puis ensuite donc ce bouquin, hein, parole ouvrière, un peu après. Donc Didier, hein, donc qui est présent effectivement dans nos studios, hein, il est pas présent que sur la bande magnétique. il est toujours présent avec nous là. Nous sommes en mai 2008. La rencontre avec Frédéric Fajardi, un petit peu la construction là de cette aventure.
Ouais, bah en fait ça s'est fait de façon tout à fait ça fait bizarre et simple en même temps. Moi je connaissais Fajardi, j'avais pas lu grand chose de lui, mais j'avais lu Une charrette pleine d'étoiles. Ça m'avait vraiment marqué, puis aussi hein, parce que Fajardi a été longtemps chroniqueur à Charlie Hebdo, et donc j'avais lu certaines de ses chroniques. Et en fait, c'est l'association Escale des Lettres qui, dans le cadre d'un de ses cabarets littéraires, avait invité Fajardi. Donc, bon, j'avais envie à la fois de voir ce que c'était que ces cabarets littéraires, et puis en plus que c'était Fajardi, ça tombait bien. Donc, c'était au Dastan à l'époque, hein, le resto kurde mythique à Arras. Et puis, bah voilà, donc je me retrouve dans cette ambiance là. Et à la fin du cabaret, je vais voir Fajardi, puis je lui dis voilà, on a monté une asso, ça s'appelle Colère du Présent, on aurait vachement envie de bosser avec vous. Il me dit bah ouais, moi le nom il me plaît bien, bon ben voilà mon numéro de téléphone, on s'appelle, voilà. Et on s'est revu très rapidement. Bon, je lui avais proposé, hein, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, atelier d'écriture, le salon du livre, etc. etc. Et aussi les interventions auprès des publics éloignés de la lecture et de l'écriture. Et il se trouvait que dans nos premiers ateliers, il y avait des ateliers avec le foyer d'action éducative de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arras. Et Fajardi tout de suite l'a tilté en disant ben, Francine, elle bosse à la PJJ à Paris, et elle me raconte toujours des tas d'histoires, et moi ça m'intéresserait d'y aller voir, je fais des tas d'ateliers d'écriture. Voilà. Et donc on s'est filé un rencard à Paris, place du Châtelet, et puis on a bu un coup, et puis on a sympathisé, voilà, et puis on a commencé comme ça avec un premier atelier d'écriture. Et donc là, on devait être fin 2002. C'était après le premier salon. Hein, c'est vraiment très rapide. Et
premier salon, c'est 1er mai 2002.
1er mai 2002. Entre donc c'était vraiment à la dernier semestre 2002, hein, la rencontre. Et voilà, donc on commence cet atelier à Arras avec les jeunes de la PJJ. Et il se trouve que donc début 2003, c'est la fermeture de Metal Europe. Bon. Le conseil général qui avait entendu parler de nous, qui vient nous voir en disant voilà, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait, un bouquin auprès des salariés de Metal Europe. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Alors, j'ai dit, écoutez, ça tombe bien, il y a Frédéric Fajardi avec qui on vient de commencer de travailler, je peux lui demander. Et Fajardi, il a dit oui tout de suite, quoi. Il dit, ouais, ça m'intéresse. Et donc, voilà, ça a démarré comme ça. Et on a été voir une première fois, c'était encore pendant la lutte. Hein. Et bon, on a attendu toute une matinée parce que c'était une assemblée générale avec plein de points à l'ordre du jour. Et puis, sur la fin de l'assemblée, Farid Ramou a donné la parole à Fajardi, qui a expliqué le projet, et il y a eu un vote d'Assemblée Générale, et les gens étaient OK pour rencontrer Fajardi et témoigner.
Donc voilà, ça a démarré comme ça. Il est allé régulièrement hein, pour prendre des témoignages, c'est ça hein,
parce que c'était une ou deux fois par semaine. On lui avait installé donc la permanence de ce qui s'appelait pas encore Cœur de Fondeur, était installée dans la mairie de Courcelles-lès-Lens. Ouais, c'est la course de l'élance. Et donc, il était sur le palier avec une petite table, son magnétophone. Et puis, donc, il avait des rendez-vous avec les mecs. Mais bon, les mecs, un coup sur deux, ils avaient oublié le rendez-vous. Donc, ils chopaient les mecs qui passaient. Et puis, il discutait avec eux. Donc, il a mené ses entretiens comme ça. Voilà. Et puis, donc, il a proposé le texte à Mille et une Nuits. Et puis il a proposé de filer les droits d'auteur à Cœur de Fondeur qui venait de se créer pour voilà. Donc bon, et ça a été publié à 20 000 exemplaires. On a fait une sortie officielle dans la salle des fêtes de Courcelles-lès-Lens avec 500 métallos. Les mecs qui pleuraient. Il y avait Pintus. On avait demandé à Eric Pintus de lire le texte. Pareil, Pintus il a pas pu finir le texte. Son père était métallo, il s'effondrait. Enfin bon, c'était. Et je crois que c'est. Il m'avait dit Frédéric que c'était la soirée où il avait signé le plus de bouquins. Je crois qu'il avait dû en signer 400. Il pouvait plus arquer hein, au niveau de, voilà. Et donc, si tu veux, le bouquin, il était prêt pour le deuxième salon du livre, hein, 2003. Et Fajardi a accepté tout de suite. Bon, Daninx, c'était le premier parrain du salon du livre. Et Fajardi, le second, hein, dès le deuxième salon du livre. Et on a même été, c'était rigolo parce que le 1er mai 2003, on avait invité une chorale, c'est une chorale de Bretagne, enfin, des gens de la CGT qui chantaient des chansons. Et ils sont partis avec Fajardi en bus. Ils arrivent en bus, ils avaient voyagé toute la nuit. Ils sont partis avec Fajardi en bus faire le défilé du 1er mai à Metal Europe. Et voilà, tout c'était. Ça a commencé comme ça avec Fajardi.
Un mot sur donc paroles ouvrières, Jérôme.
Moi, je me souviens très bien de. D'abord, si je suis avec vous ici ce soir et depuis quelques temps, j'ai le plaisir de participer à vos activités, c'est grâce à Frédéric, parce que c'est Frédéric qui je me souviens bien parler de moi à Didier. Et puis je me souviens très bien de lui à cette époque-là, parce que d'abord il était assez crevé. C'était un truc qui était assez dur. Il mangeait le TGV jusqu'à Arras. C'était. Puis la situation sur place était éprouvante. Et Frédéric était derrière son allure de baraque. C'était quand même. C'est classique de dire ça, mais je veux dire, c'est quelqu'un d'une sensibilité à fleur de peau. Il était vidé. Physiquement, mais je veux dire aussi moralement. C'est-à-dire que c'est un livre où il a paradoxalement, c'est un livre où il écrit très peu, mais où il a mis le meilleur de lui-même et avec une sincérité assez rare chez des ex-68ards, puisque lui, il va jusqu'au bout de sa logique. Il aime pas plus l'argent que ça, et il a rendu effectivement les droits d'auteur ont été inversés, ce qui est je l'ai écrit récemment. Je veux dire, quand on sait à quel point ça encroque chez les anciens 68, pas tous, mais à quel point ça encroque et à quel point ils aiment en croquer, il y avait chez Frédéric une espèce de dignité là.
D'ailleurs, il n'était pas avare d'anecdotes et là-dessus, il s'est fait rentrer dedans hein, par plein d'écrivains parisiens. Ils disent, mais t'es complètement con, tu pètes le boulot en faisant ça.
Tu casses le marché, ouais. C'était le comble. Ouais, c'est-à-dire que tu casses le marché de la souffrance ouvrière. Ouais. Non, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que voilà, tu te rends compte, tu te fais pas payer pour un livre comme ça. Voilà.
Ouais, genre, pour être complètement honnête. Il a été payé pour la résidence.
Oui,
on lui a reproché d'avoir
reversé les droits d'auteur. Non, mais je n'ai pas dit qu'il avait fait pour le droit de Prusse. Il faut bien qu'il y ait un écrivain vive.
Bien sûr, oui.
Mais je veux dire, le fait d'avoir reversé les droits, tu as raison, lui a été reproché.
Ouais. Il n'a jamais dit par qui. Hein. Ouais.
Jean, un mot, Jean, sur paroles ouvrières.
Oui, peut-être un mot un petit peu discordant, parce que, bon, c'est clair que le travail de Fajardi, sa proximité, avec une lutte ouvrière, avec les salariés de Metal Europe sont tout à fait à mettre à son crédit. C'est évident que le livre a été perçu immédiatement et utilisé comme un outil de la lutte des salariés de Metal Europe. En même temps, on ne peut pas se contenter de cet aspect-là. Il faut faire aussi une critique, une analyse du livre lui-même et de son contenu. La question de Metal Europe posait un problème extrêmement compliqué de fond, qui est le rapport entre la lutte pour la défense de l'emploi et l'utilisation de l'emploi, la finalité de cet emploi, que ce soit l'utilité du produit de la fabrication ou que ce soit la production négative de cette production entre guillemets, à savoir la pollution et la détérioration de l'environnement. C'est une question extrêmement compliquée, hein, qui traverse évidemment tous les conflits de la dernière période. Et ce qu'on peut reprocher à Fajardi, c'est d'avoir constamment dans tout le livre repris l'amalgame, qui était certainement un amalgame qui était pris dans les faits par les salariés eux-mêmes, entre une organisation, une association environnementale locale et le Parti des Verts. Et Fajardi, par exemple, dans sa préface, oublie totalement la présence des drapeaux verts dans la manifestation de défense de Metal Europe. Il ne voit que les drapeaux mêlés, comme il le dit, de ses tutelles, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Il oublie la présence des Verts, qui n'ont jamais demandé la fermeture de Metal Europe. Et il tait complètement pendant tout les interviews, parce que les questions, Jérôme disait, il a peu écrit dans ce livre. Oui, évidemment, ces questions ont complètement disparu. Et il pose pas, par exemple, la question au maire qui est interviewé, mais comment se fait-il que vous avez délivré des permis de construire sur des terrains plombés ? Et il va même plus loin, Fajardi, dans sa préface, il moque les écologistes en disant que des particules de métaux lourds ne peuvent pas flotter dans l'air. Bon, c'est absurde. Et il tire le livre dans un certain sens. Heureusement, le livre est sauvé par l'intervention, le dernier texte, l'interview de Farid Ramou, qui remet les choses sur leurs pieds. Et il a la richesse, ce Farid Ramou, de poser le problème de fond. Mais ce qui est, à mon avis, quand même très négatif, c'est que Fajardi ne l'a pas fait dans son introduction au livre. Et ça, c'est quand même très dommage.
Alors, Jean, ce qui serait très bien, c'est que tu arrives à nous retrouver un petit extrait où il y a Farid Ramou et Fajardi après. Mais bon, mais on rebondit sur.
Tout de suite, je voudrais rebondir parce que d'abord, il a une circonstance atténuante énorme dans son rapport au verre, qui, je le reconnais, n'est pas d'une honnêteté fondamentale pour les verres de la région. Ceci étant dit, Frédéric vivait à Paris, et il faut savoir quand même ce que sont les verts à Paris. C'est-à-dire que c'est une espèce de... Alors, je suis d'accord avec toi, il pouvait faire le distinguo, mais enfin, les verts à Paris, c'est... on va pas reprendre le terme de bobo qui a été galvaudé, mais je veux dire, c'est en général des gens pour qui l'environnement consiste à chasser les pauvres des quartiers rénovés, donc et à faire des voies piétonnes et pour que leurs enfants puissent rouler à vélo. Donc si Dieu, effectivement, il a pu être un peu énervé de voir des verts arriver et mettre quand même, et c'est tout à leur honneur, c'est pour cela qu'ils sont, c'est les préoccupations environnementales devant. Et effectivement, on ne peut pas non plus empêcher de penser que dans l'affaire de Metal Europe, les critiques des verts sur l'environnement ont bien servi aussi le capital pour faire fermer le truc en disant puisque c'est pourri, on ferme.
On va pas rentrer dans le débat.
C'est vrai que pour avoir côtoyé Fajardi, bon, à la fois pendant toute cette aventure et puis depuis 2003, il avait les verres dans le nez. Mais vraiment quoi.
Le problème c'est que là tu as affaire à un écrivain, quelqu'un qui doit faire une analyse de la situation et pas simplement faire passer ce qu'il a dans le nez, et c'est là qu'à mon avis il a été extrêmement faible. Il faut le dire. Jérôme, on fait pas l'amalgame, il n'y a pas de raison de faire l'amalgame entre une association locale environnementale qui défend les gens qui habitent autour, qui vivent sur des terrains plombés. Enfin, on sait que les enfants autour de Metal Europe aujourd'hui sont plombés. Bon, ça c'est le produit aussi de l'activité de Metal Europe. Donc cette association qui effectivement a demandé la fermeture de Metal Europe, il faut faire la différence entre cette association et les Verts, le parti des Verts qui n'a jamais demandé la fermeture de Metal Europe, qui a défendu.
On fera une émission sur Metal Europe complète.
Non, mais c'est pas une question. Le problème, c'est.
Et on en débattra avec. On pourra éviter de faire de fondeur. Cela dit, je sais pas si on a le temps, mais on a reçu un témoignage là, des salariés de Metal Europe. Si on a le temps, indépendamment du débat que tu poses, qui est juste, on pourra en parler longuement. Et puis c'est vrai que Fajardi sur les verts, effectivement, on peut le dire aussi.
Par moment, c'était.
Cela dit, pour les types, enfin moi j'ai assisté à l'ensemble du processus. D'abord. Les drapeaux de ses tutelles, c'est faux, archi faux. Fajardi, il a écrit ce qu'il a voulu et on aurait publié. Enfin, il pouvait dire ce qu'il voulait, y compris même si c'était le Conseil général du Pas-de-Calais qui avait payé la résidence. Fajardi se serait pas privé de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il s'en privait pas jamais, y compris dans les interventions publiques, n'importe où dans le département. L'important, c'était quand même que cette lutte tu peux faire tous les gestes que tu veux. Moi, je peux te dire que je l'ai vu allumer. Mais des dizaines de fois, mais tous, hein, je veux dire, les Verts, le PS, le PC, et tout le monde en prenait plein son grain. Hein, je veux dire, il y avait des thèmes récurrents, comme disait Jérôme, c'était assez saignant à certains moments. Je sais pas, on aura peut-être pas le temps de dire ça. Enfin, de toute façon, on publiera ça. On l'a déjà publié sur la toile. Mais on a un témoignage où les types disent quand même.
C'est très émouvant.
À la fin, ils reprennent une citation. Des ouvriers dont certains connaissaient mes livres m'ont fait venir sur le site de Metal Europe, m'ont parlé, m'ont choisi pour donner une forme écrite à leur mémoire. C'est ma seule légitimité. Elle vient d'eux, écrivait-il. Il restera auprès de nous Donc là, c'est les gens de Cœur de Fondeur qui parlent. Il restera auprès de nous, avec nous et debout. Metal Europe, Paroles Ouvrières, est devenu notre Germinal et Frédéric Fajardi, notre Zola. Mais Frédéric, tu nous manques déjà. Hein, donc c'est, bon, c'est la fin d'un texte.
Donc ça, c'est la première grosse collaboration entre Fajardi et Colère du Présent et le Salon du Livre qui a le mérite d'exister, avec éventuellement quelques bémols qui peuvent être avancés par quelques-uns, mais donc ça s'est poursuivi tout au long de
ah, mais ça a été, non mais ça a été furieux hein, cette histoire, même dans l'association on y reviendra une autre fois, mais
il faudra faire une émission pour refaire une émission spécifique là-dessus, mais là on parle de Fajardi, ouais. Donc on poursuit cette ouais. Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'en 2007 le dernier bouquin de Fajardi qui est le résultat de cette collaboration.
Cette camaraderie n'a jamais cessé depuis. C'est-à-dire que bon, Fajardi, on était son terrain de prédilection. On a fait, alors j'ai pas encore fait le recensement complet du nombre d'ateliers d'écriture, mais c'est énorme. Enfin, je veux dire, on a dû en faire une quinzaine, une vingtaine, dans plein de milieux différents, avec des jeunes en collège, en lycée, dans des centres d'insertion, etc. Bon, on pourra faire aussi une émission là-dessus. Et puis on a aussi fait des tas de choses. Bah, par exemple, sur le troisième salon du livre, le texte de Metal Europe a été c'est Stéphane Verru qui s'en est emparé pour faire un ciné-concert. On a fait notre première création avec la grève d'Eisenstein, avec une espèce de truc à DJ. Enfin, c'était assez assez surréaliste.
Vas-y, parce que l'émission prend fin.
Ouais, rapidement deux trucs. C'est-à-dire que les ateliers d'écriture sont souvent, c'est pas péjoratif dans la bouche, le gagne-pain des écrivains. Or, Frédéric n'en avait pas besoin en tant que tel. C'est-à-dire pour ça que c'est fait en lieu libre, histoire des droits d'auteur, c'est que c'était vraiment parce qu'il avait décidé c'était son moyen de rester au contact du terrain et d'un vrai terrain social. Et puis deuxièmement, je tenais à dire que pour revenir rapidement, très rapidement,
alors, deux secondes,
il y a un livre très important de Frédéric qu'on oublie et qui lui a coûté très cher pour prouver la sincérité de son engagement politique. C'est en 93 un livre qui s'appelle Chronique d'une liquidation politique, qui est une critique de gauche, de la gauche au pouvoir. Et là, il a morflé. Et quand je dis il a morflé sèchement, parce que le journal de Télérama, le journal de ceux qui aiment la télé, ceux qui aiment pas la télé, mais qui la regardent tout le temps, ça n'a plus jamais parlé de lui. Un certain nombre de scénaristes, c'est une bonne partie de ses ressources qui venaient du cinéma et des feuilletons, parce que par exemple, c'est le créateur, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais David Lansky, avec Johnny Hallyday, c'est pas un secret d'État, du jour au lendemain, ça, c'est d'un seul coup, paf, parce que effectivement, il s'est permis de dire que la gauche des années 90, enfin la gauche de la fin du deuxième, enfin la fin de la période Mitterrand, c'était pas le rêve non plus. Voilà.
Alors Didier, pour conclure, oui. Il reste 10 secondes. Donc la dernière collaboration, c'est le dernier livre de Frédéric Fajardi.
Oui, donc c'est en fin 2006, le comité d'entreprise des cheminots nous dit bon bah ça va être les 70 ans de la création de la SNCF, enfin de la privatisation, enfin de la nationalisation des compagnies privées, ça serait intéressant qu'on ait comme ça une espèce de livre fasse un retour un aller-retour entre le passé et le présent, et Fajardi, est-ce qu'il pourrait nous écrire un truc ? Et là, il a fait ce truc en 2 mois, quand Jérôme disait, mais Fajardi, c'était une bête d'écriture, il a écrit ce truc-là en 2 mois. Et,
donc ça s'appelle
extrêmement Didier. Fatigué, ça s'appelle, hélas, voilà. Ça s'appelle Tu ressembles à ma mort.
C'est aux éditions des Équateurs, on le trouve facilement, notamment à Arras. C'est terminé.
Pour dire quand même que, là, c'était un premier temps d'hommage à Fajardi, mais on va pas s'arrêter là.
Il y en aura d'autres, avec Colère du Présent, les prochains rendez-vous de Colère du Présent. Voilà, c'était une émission avec Didier Andreau, Jérôme Leroy, consacrée à Frédéric Fajardi.
Une heure passée de 31 minutes, Tumulte, c'est terminé. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 12h30 et sur le net radiopfm.com.